Chers amis auditeurs, nous allons poursuivre aujourd'hui notre cheminement éthique. Nous avions commencé la dernière fois à explorer cette dimension merveilleuse de la conscience morale, c'est-à-dire de ce lieu intime en nous où nous entendons la voix de Dieu qui nous presse de faire le bien et d'éviter le mal. En effet, l'homme découvre au plus profond de son cœur, de sa conscience, la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, qu'il reçoit de Dieu comme un don, une boussole pour sa vie, loi à laquelle il est tenu d'obéir car c'est elle qui le jugera. Et plus l'homme écoute cette injonction au bien qu'il habite, plus il peut agir selon sa conscience, résister au mal et finalement déployer le meilleur de lui-même. Seulement nous sommes dans un monde et dans un temps où ce qui était évident pour tout le monde, le bien à accomplir, le mal à éviter, la loi naturelle, ne l'est plus vraiment. Nous avions évoqué cela la dernière fois avec Benoît XVI, qui a beaucoup dénoncé le danger d'une dictature du relativisme, où le bien finit par être vu comme un mal et le mal finit par être vu comme un bien. Et ceci n'est rien d'autre qu'un obscurcissement de la conscience morale, qui n'arrive plus à discerner ce qui est véritablement bon, c'est-à-dire bon selon la vérité, puisqu'il n'y a plus de vérité reconnue. Chacun vit selon ce qu'il croit être sa vérité. Benoît XVI disait « Le silence de la conscience peut devenir une maladie mortelle pour une civilisation entière. » Eh bien, nous sommes guettés par ce péril. En fait, beaucoup de choses peuvent contribuer à obscurcir la conscience, à l'engourdir. D'abord parce qu'on confond les convictions subjectives de l'ego ou les mouvements du cœur avec la voix de la conscience. Mais la voix de la conscience est au-dessus du cœur, de nos sentiments profonds ou de nos convictions subjectives. La voix de ma conscience peut m'amener à sacrifier même les liens d'amour les plus purs, les plus saints. Saint Thomas More, pour rester fidèle à sa conscience qui lui intimait de rester fidèle à l'Église catholique fondée par Jésus-Christ, eh bien, il a accepté de sacrifier sa vie, et donc de sacrifier du même coup le lien d'amour avec son épouse et ses enfants. Il ne s'est pas dit « je vais faire du mal à mon épouse et à mes enfants si je reste fidèle à ma conscience et donc par amour pour les miens, j'accepte de ne pas obéir à ma conscience pour ne pas être mise à mort ». Il ne s'est pas dit cela. Sa conscience est au-dessus de tout, même des affections les plus chères. Seulement le problème aujourd'hui, c'est qu'on pense que les affections du cœur sont supérieures à la conscience, car on a placé le cœur, la sensibilité, au-dessus de la conscience. Finalement, on a sacrifié la vérité, la voix de Dieu, sur l'autel des affections, ce qui revient à faire passer l'ego devant Dieu. C'est de l'idolâtrie de soi. Une des causes de l'obscurcissement de la conscience vient aussi d'un manque de vie intérieure. Nous laissons le parasitage du bruit de ce monde, des fausses valeurs, nous envahir. Et alors nous sommes rendus incapables d'écouter, d'entendre la voix intérieure de Dieu en nous. Il n'y a plus d'espace en nous pour Dieu, pour accueillir sa lumière. Il n'y a plus que le monde en nous, et ainsi nous devenons aveugles et sourds. On pourrait aussi évoquer le matraquage de la pensée unique, les idéologies tordues mais soutenues par les médias, qui créent une couverture de ténèbres spirituelles et qui font que même nous, chrétiens, nous sommes tentés de penser comme le monde, selon l'esprit du monde et non plus selon l'esprit du Christ. C'est tellement plus confortable de penser comme les autres, plutôt que de chercher la vérité et d'avoir le courage de dire non à ce qui est mauvais. Nous sommes face à un engourdissement de la conscience, un manque de courage, de virilité, du fait aussi d'une fragilité psychologique de plus en plus grande. La mentalité hédoniste et matérialiste, qui ne vit que pour ce monde, engendre des êtres faibles, sans colonne vertébrale. Engendre une sorte de relâchement narcissique qui rend incapable de s'élever contre l'injustice, le mal. C'est un peu chacun pour soi. L'essentiel, c'est de sauver ma vie. Non pas mon âme, mais ma vie physique. Il y a aussi le péché qui se généralise et qui n'est même plus vu comme un péché, et donc qui n'est plus confessé. Et donc la vitre de notre âme, le miroir de notre âme, est de plus en plus sale, sans même que nous nous en rendions compte. Cette vitre ne laisse plus passer les rayons du soleil, la lumière de Dieu. Et alors notre conscience est obscurcie. Elle n'est plus éclairée par la lumière de la foi. Elle n'est plus droite, mais faussée. Comme on dit, à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit, c'est-à-dire mal. Il y a aussi le manque de temps ou la paresse pour lire la parole de Dieu, pour nous former, pour prendre le temps de creuser les questions, de se renseigner. Il peut y avoir aussi des choses plus redoutables. Le fait, par exemple, que des systèmes peuvent vouloir acheter notre conscience, la pervertir pour nous briser en tant que force morale, spirituelle. J'avais lu il y a déjà pas mal de temps des réflexions du cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong. Il faisait le constat que le Parti communiste chinois n'avait pas du tout le désir de faire des martyrs, notamment parmi les évêques de Chine, mais simplement de prendre le contrôle et de pourrir l'Église de Chine de l'intérieur. Et ça, c'est une persécution beaucoup plus sournoise et perverse qu'avant, où l'opposition était frontale et même sanglante. Et le cardinal Zen disait « Et je suis obligé de constater qu'ils y parviennent de plus en plus ». Voyez, au lieu de menacer de créer ainsi une résistance, le gouvernement appâte, séduit, il promet argent, honneur, prestige, ou propose une situation confortable dans la société. Autrement dit, la tactique des membres du Parti communiste chinois vis-à-vis de l'Église en Chine n'est pas tant de menacer les personnes que de les induire en tentation. Ceux-ci risquent pire que leur vie, puisqu'on cherche à prendre leur âme. Le Parti communiste chinois ne veut pas faire des martyrs, il veut produire des renégats, disait le cardinal Zen. Et c'est pourquoi il appelait à prier pour eux, pour qu'ils aient la force de résister. Nos compromissions aussi obscurcissent notre conscience. Vous vous souvenez sans doute de Václav Havel, homme de lettres dissident face au régime communiste, qui a été en prison d'ailleurs, puis qui est devenu président de la Tchécoslovaquie, puis de la Tchéquie. Il avait écrit un livre, « Le pouvoir des sans-pouvoirs » en 1978, dans lequel il décortique ce qu'il appelle « la vie dans le mensonge » et où il appelle à la dissidence, et la dissidence, c'est la vie dans la vérité. Václav Havel explique tout d'abord que le régime communiste, loin d'être une dictature classique, représente ce qu'il appelle une dictature post-totalitaire. Cette dictature a su en effet raffiner ses mécanismes de manipulation pour produire une adhésion quasi automatique des citoyens au système. Et pour illustrer son propos, Václav Havel prend l'exemple du marchand de légumes qui, le 1er mai, installe dans sa boutique une banderole sur laquelle est indiqué « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Évidemment, le commerçant ne croit plus au message que véhicule cette banderole. Il sait que cette union des prolétaires cache finalement la dictature du parti. Mais il sait également que s'il ne l'installe pas dans sa vitrine, il risque d'avoir à se justifier et de ce fait peut se trouver inquiété. Il décide donc de faire comme tout le monde et de ne pas se singulariser. Pour Václav Havel, cette banderole a valeur de signe. Elle contient un message caché. « Moi, marchand de légumes X, je suis ici. » Et je sais ce que j'ai à faire. Je me conduis comme on attend de moi. Ce message est destiné au supérieur du marchand de légumes. Il montre ses bonnes dispositions et son bon désir de collaborer. S'il ne croit plus au message véhiculé par la banderole, le marchand de légumes n'est malgré tout pas hostile à celui-ci. Pourquoi les prolétaires de tous les pays ne s'uniraient-ils pas? C'est finalement une bonne chose. C'est dans ce système de justification que commence l'adhésion, certes sur un mode faible, à l'idéologie. L'autre facette de ce geste est moins reluisante encore, car si dans la Tchécoslovaquie des années 70, quasiment plus personne ne croit au communisme et à ses vertus, la peur reste un moteur très puissant. Le geste du marchand de légumes prend alors une autre dimension, et la banderole pourrait être lue comme « j'ai peur ». C'est pourquoi j'obéis sans restriction. Le marchand de légumes vit dans le mensonge. Par peur, il obéit. Il ne veut pas d'ennui, il veut se faire bien voir. Et c'est ensuite qu'il se construit un système de justification. Pour Václav Havel, c'est la multitude de toutes ces petites compromissions qui finit par faire système. Compromission sans gravité à première vue. Mettre une banderole dans une vitrine qui demande aux gens de s'unir. Mais c'est l'addition de tous ces petits gestes sans conséquences apparentes qui en vient à faire système, en acculturant l'idéologie communiste pour en faire un élément naturel, comme le vent, le paysage, les odeurs. c'est tortionnaire, mais en fait, ça devient naturel. Certes, l'individu n'est pas obligé de croire en son fort interne à toutes ces mystifications, mais il est sommé de n'en rien manifester à l'extérieur. C'est comme si le communisme avait su imposer cette sorte de schizophrénie, vie intérieure, vie publique, qui n'est malheureusement pas réservée aux pays de l'Est sous le communisme, puisqu'on le connaît fort bien ce phénomène aussi dans nos démocraties libérales. Ne parle-t-on pas d'éthique de la responsabilité et d'éthique de conviction? Autrement dit, moi en tant que député, homme public, maire d'une ville par exemple, ou simplement travailleur, médecin, j'ai mes convictions, mais je les garde pour moi. Et dans ma vie publique, dans mon travail, eh bien j'agis en contradiction avec mes valeurs. Je piétine ma conscience en fait. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cela dans la bouche d'hommes ou de femmes politiques? Oui, à titre personnel, je suis contre le mariage pour tous. Je suis contre l'euthanasie. Mais je voterai pour. Comme si la conscience pouvait se scindre en deux et s'opposer à l'intérieur d'elle-même. Mais comme le dit Jésus, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si le royaume de la conscience est divisé contre lui-même, il ne tiendra pas, il s'écroule. Vaclav Havel avait donc bien raison de pointer du doigt le danger de ce post-totalitarisme qui génère les petites compromissions. Ces petites compromissions qui nous amènent subtilement à faire taire la voix de notre conscience. Alors on pourrait penser, oui, mais on n'est plus au temps du communisme aujourd'hui. L'État ne nous force pas ces petites compromissions qui nous font abdiquer notre conscience. Mais excusez-moi, que s'est-il passé il y a très peu d'années? Ne nous a-t-on pas habitués et forcés à la soumission avec des injonctions débiles que personne n'osait contester pour ne pas se démarquer? Ne devions-nous pas mettre sous peine d'amende des masques sur notre visage, toujours et partout, masques que les médecins sérieux qualifiaient eux-mêmes d'inutiles? Ne devions-nous pas de surcroît les mettre en pleine forêt, sur la plage, chez nous, dans nos voitures, même si nous étions seuls? Ne nous a-t-on pas dit qu'il était interdit de consommer debout dans les cafés et les bars pour éviter la circulation du virus, mais que nous étions autorisés à consommer assis? Sans doute parce que le virus se déplace à 1,70 m du sol, mais pas à 1,20 m. Voyez toutes ces injonctions délirantes auxquelles tout le monde consent et se soumet par peur, pour éviter les ennuis, mais qui ne visent finalement qu'à nous faire abdiquer notre conscience et notre résistance. Et c'est ainsi qu'on commence doucement, subtilement, sans même nous en rendre compte, à vivre dans le mensonge, si ce n'est dans la folie, pour reprendre l'analyse de Vaclav Havel, et alors commence notre déchéance morale. La question de la conscience morale est donc une question éminemment actuelle, et la nécessité de vivre dans la vérité, c'est-à-dire selon sa conscience, est peut-être la forme de sainteté que réclament nos temps. C'est le même appel à la dissidence que lançait Vaclav Havel il y a des années. Je voudrais vous présenter pour finir cette émission un homme, un saint homme qui a vécu d'une manière héroïque selon sa conscience. Ce sera un encouragement pour nous à ne pas tomber dans les petites compromissions qui nous amènent à vivre dans le mensonge plutôt que dans la vérité. Il s'agit de Mgr Clemens August von Galen, le lion de Münster. Il a été surnommé ainsi à cause de son courage et de son rugissement contre le nazisme. Mgr von Galen naît en 1878 en Allemagne. Il devient prêtre en 1904. En 1933, l'année même où Hitler accède au pouvoir, il devient évêque de la ville de Münster. Dans son premier message pastoral, il commente sa devise épiscopale qui est déjà tout un programme. Nec laudibus, nec timore. Ni la louange, ni la crainte des hommes. Et il commente ainsi sa devise. Ni la louange, ni la crainte des hommes ne m'empêcheront de transmettre la vérité révélée, de distinguer entre la justice et l'injustice, les bonnes actions et les mauvaises, ni te donner avis et avertissement chaque fois que cela sera nécessaire. Et dès 1934, l'évêque condamne un ouvrage d'Alfred Rosenberg, Le mythe du XXe siècle, l'idéologue officiel du parti nazi y exaltait la race aryenne et le sang allemand. Eh bien, dans sa lettre pastorale du carême 1934, l'évêque qualifie cette doctrine de « tromperie du diable », rappelant que seul le sang de Jésus-Christ nous sauve. Il suscite ainsi l'enthousiasme du peuple de Westphalie. Un an plus tard, il récidive en proclamant contre toute forme d'antisémitisme que le christianisme s'enracine dans la religion d'Israël. Il rappelle que le devoir de la charité fraternelle s'étend à tous les hommes, quelle que soit leur race et leur religion, et il s'engage dans une aide concrète pour les Juifs. Puis le régime hitlérien veut s'assurer le monopole de l'éducation de la jeunesse en supprimant les cours de religion dans les écoles. L'évêque s'oppose victorieusement à cette suppression en s'appuyant sur un article du Concordat de 1933. Après cela, en novembre 1936, le délégué à l'éducation dans la région nord du diocèse de Münster prescrit de supprimer toutes les croix et signes religieux dans les écoles et les édifices publics. Cette mesure suscite à l'initiative de Mgr von Galen une véritable croisade de prédication, de prière et de pétition en faveur du maintien des croix. Le chef nazi du district est finalement obligé de retirer la mesure projetée pour éviter de plus grands troubles. Je trouve que c'est une leçon pour nous, tout cela. Le démon et les ennemis du Christ n'avancent qu'à proportion de nos reculades suscitées par la peur. Mais si quelqu'un se dresse avec courage et qu'il est suivi par d'autres, c'est l'ennemi qui est obligé de reculer. Nous aurions tendance à être fatalistes devant la tournure que prend notre monde et à baisser les bras. Mais il ne faut pas. Si nous baissons les bras, ils avanceront. Nous devons résister, entrer en dissidence. C'est le temps des héros, donc debout. Je ferme la parenthèse et je poursuis. Le 14 mars 1937, une encyclique est publiée contre le nazisme par le pape Pie XI. Mgr von Galen avait d'ailleurs été consulté par le pape pour l'écriture de cette encyclique. L'évêque la publie donc aussitôt dans son journal diocésain et dans le plus grand secret, il en fait aussitôt imprimer 120 000 exemplaires. Et le dimanche 21 mars, une semaine après la publication à Rome, chaque curé sur ordre de l'évêque lit en chaire ce texte à la grand-messe. La Gestapo, prise de vitesse, se vengera par des mesures de rétorsion. Cependant, l'encyclique a été très bien accueillie par les milieux protestants. Mgr von Galen conçoit alors le projet de former un front commun de tous les chrétiens allemands contre le néopaganisme, puisque le nazisme est une forme de néopaganisme. Ce dernier sera combattu sur un terrain plus large, la défense des droits naturels de la personne humaine, droit à la vie, à l'intégrité, à la liberté religieuse, droit de suivre sa conscience, droit des parents sur l'éducation de leurs enfants. À partir de la deuxième moitié de 1940, les mesures persécutrices contre l'Église se succèdent. Revient alors l'idée d'enlever tout enseignement confessionnel dans les écoles. Mgr von Galen ressent le besoin impérieux d'élever la voix. Il prononce alors le 13 juillet 1941 dans sa cathédrale la première des trois grandes homélies qui feront le tour du monde. Après avoir réprouvé l'expulsion des religieux, il proteste contre le régime d'arbitraire et de terreur qui règne et demande justice. Le dimanche suivant, il remet cela et exhorte son peuple à tenir bon dans la persécution. Puis, c'est le fameux sermon du 3 août à la cathédrale, où Mgr von Galen dénonce le massacre des aliénés, le programme Action T4. Il faut être conscient qu'à cette époque, le Troisième Reich allemand est à l'apogée de sa puissance. C'est à ce moment-là qu'est décidée l'euthanasie massive des malades mentaux. 60 000 personnes ont déjà été regroupées en vue de leur discrète élimination dans des camps d'extermination. Et Mgr von Galen ne se fait pas d'illusions. S'il parle, il risque d'être arrêté comme ennemi du peuple allemand et exécuté. Il parlera pourtant. Et voici ce qu'il dira. Il s'agit d'hommes et de femmes, notre prochain, nos frères et sœurs, de pauvres êtres humains malades. Ils sont improductifs, si vous voulez. Les nazis les avaient classés comme étant des vies indignes d'être vécues. Mais cela signifie-t-il qu'ils ont perdu le droit de vivre ? S'insurge Mgr von Galen. Si l'on pose et met en pratique le principe selon lequel les hommes sont autorisés à tuer leur prochain improductif, alors malheur à nous tous, car nous deviendrons vieux et séniles. Alors aucun homme ne sera en sûreté. N'importe quelle commission pourra le mettre sur la liste des personnes improductives, qui selon leur jugement sont devenues indignes de vivre. Et il n'y aura aucune police pour le protéger, lui, aucun tribunal pour venger son meurtre et pour amener ses meurtriers à la justice. Qui donc pourra encore avoir confiance en son médecin? Il décidera peut-être que ce malade est devenu improductif, ce qui reviendra à le condamner à mort. On ne peut s'imaginer la dépravation morale, la méfiance universelle qui s'étendront au cœur même de la famille si cette doctrine terrible est tolérée, admise et mise en pratique. Malheur aux hommes, malheur au peuple allemand, si le saint commandement de Dieu « Tu ne tueras pas » que le Seigneur a donné au Sinaï dans le tonnerre et les éclairs, que Dieu notre Créateur a écrit dans la conscience de l'homme au commencement, si ce commandement n'est pas seulement violé, mais sa violation tolérée et exercée impunément. Et à la fin du sermon, il terminera en disant « Plutôt la mort que le péché ». Quelle actualité pour nous, à l'heure où l'on veut constitutionnaliser l'avortement et faire avancer la cause de l'euthanasie. Cette homélie de Mgr von Galen contre l'euthanasie est publiée clandestinement et diffusée très largement en Allemagne comme à l'étranger. Hitler envisage alors de faire pendre cet évêque gêneur qui ose lui résister. Mais Goebbels lui conseille d'attendre pour cela la victoire militaire définitive, afin d'éviter de provoquer des troubles en Westphalie. Cependant, 40 prêtres du diocèse de Münster sont arrêtés en représailles, dont 10 mourront dans les camps. Voyez le problème de conscience pour l'évêque. Devait-il continuer à faire courir de tels risques à ses prêtres à cause de sa parole? Mais en même temps, il ne pouvait pas abandonner à la mort tous ces hommes, toutes ces femmes et ces enfants handicapés. Il ne pouvait pas ne pas dénoncer le mal. Eh bien, sa parole a été assez puissante pour freiner le mal. Les autorités du Reich ont calé devant lui et ont interrompu le programme Action T4 en raison du scandale que sa révélation avait provoqué, même si en pratique il fut repris plus tard mais de façon plus secrète. À partir de 1942, la guerre tourne au désavantage de l'Allemagne et les bombardements alliés deviennent de plus en plus fréquents. L'évêque s'efforce dès lors d'atténuer auprès de la population civile les horreurs de la guerre. Il exhorte ses paroissiens à ne pas céder à la soif de vengeance qui est excitée par la propagande officielle. Dans sa lettre de carême, il souligne que la cause profonde des catastrophes présentes réside dans le rejet par l'homme moderne de l'autorité de Dieu. Le remède consiste donc à revenir à Jésus-Christ et à se soumettre à lui, et non pas d'exterminer par vengeance ceux qui ont fait le mal. Et l'évêque termine par cette adjuration. « Peuple allemand, tends l'oreille, écoute la voix de Dieu !» Puis vient une série de bombardements qui détruisent en grande partie la ville de Münster et la cathédrale. Mgr von Galen, après avoir échappé de peu à la mort, doit se réfugier à la campagne. Puis les troupes alliées arrivent, c'est la fin de la guerre et du régime nazi. Mgr von Galen devient alors le père des pauvres et des malheureux innombrables, sans travail, sans logement. Il prend aussi leur défense face aux forces d'occupation alliées, qui laissent la population en proie au pillage et à la famine, sous prétexte d'une responsabilité collective du peuple allemand. Le 23 décembre 1945, le pape Pie XII crée l'évêque von Galen cardinal avec deux autres Allemands. Il veut par là rendre hommage à la voix la plus courageuse de l'épiscopat allemand sous le nazisme. C'est une façon aussi pour lui de manifester publiquement que le peuple allemand ne peut être rendu responsable dans son ensemble des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Le 21 février 1946, l'évêque de Münster reçoit donc le chapeau de cardinal à Rome. Puis de retour à Münster, il est accueilli par une foule enthousiaste de 50 000 personnes. Il exprime son regret de n'avoir pas été jugé digne du martyr et reconnaît que s'il n'a pas été arrêté par la Gestapo, il le doit à l'amour et à la fidélité de ses diocésains qui ont toujours été derrière lui. C'est le dernier acte public du lion de Münster, car dès le lendemain, il est victime d'une perforation intestinale dont il meurt le 22 mars 1946. Le 9 octobre 2005, le pape Benoît XVI le béatifie et déclare « Le diocèse de Münster peut bien s'énorgueillir d'avoir eu pour évêque un pasteur qui s'est opposé avec courage à l'idéologie qui méprisait l'humanité et à la machine de la mort de l'État national-socialiste, au point de mériter la dénomination de « Lion de Münster ». Il est certain qu'il ne put accomplir ce qu'il fit que grâce à une spiritualité profonde et en même temps très simple, fondée de manière évidente sur l'Eucharistie et sur la dévotion à la Mère de Dieu. Les paroles enflammées de l'évêque frappèrent profondément la machine de mort du national-socialisme. En fait, on pourrait dire que Mgr von Galen a eu le courage de la vérité. Et d'ailleurs, il avait fait une relecture après coup de ce qu'il avait vécu et il disait « Le bon Dieu m'a donné une position qui m'obligeait à appeler noir ce qui était noir et à appeler blanc ce qui était blanc, comme il est dit dans l'ordination épiscopale. » Et Benoît XVI donnait comme la clé de cette vie sans compromission. Là réside le message toujours actuel du bienheureux von Galen. La foi ne se réduit pas à un sentiment privé, qu'il faudrait même cacher lorsqu'elle dérange, mais implique la cohérence et le témoignage également dans le domaine public, en faveur de l'homme, de la justice et de la vérité. Autrement dit, on ne peut pas être chrétien à l'Église et païen par ses pensées et ses actes dans le monde. Si nous voulons vivre dans la vérité, il nous faut obéir à notre conscience dans toutes les dimensions de notre vie et toujours.
Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle.
Quel trésor Dieu ne nous a-t-il pas donné en nous donnant une conscience morale? Il nous a rendus capables d'écouter au fond de notre cœur sa voix qui nous guide sur le chemin du bien et de la pleine réalisation de nous-mêmes. Cette voix intérieure qui nous fait sentir ce qui est bien et ce qui est mal. Cette conscience morale présente en chacun de nous nous aide à mettre en application dans nos choix concrets la loi naturelle donnée par Dieu. Cette loi qui nous invite à faire le bien et à éviter le mal, cette loi de vie qui est finalement une participation à la loi éternelle de Dieu, c'est-à-dire à sa sagesse. Alors bien sûr, tout homme a une conscience morale. Cependant, pour un chrétien, cette conscience morale est comme transformée, car elle bénéficie de la lumière de la foi. Elle est surnaturalisée par la grâce de Dieu. Ce don gratuit de Dieu qui nous permet de répondre à notre appel à vivre en enfant de Dieu. Par la grâce de notre baptême et la grâce donnée par les autres sacrements, eh bien l'âme humaine et ses puissances spirituelles, notamment la volonté et l'intelligence, sont surélevées. Elles sont désormais ordonnées à une nouvelle finalité qui est la vie en Dieu. Et donc la conscience morale qui garde toujours sa fonction d'indicatrice du bien, montre aussi à l'âme le bien véritable et supérieur qui est Dieu. L'âme reçoit par le baptême des vertus infuses, c'est-à-dire gratuites, données par Dieu. Elles sont au nombre de trois, la foi, l'espérance et la charité, vertus que l'on appelle théologales car elles se rapportent à Dieu. La foi étant la disposition à croire aux vérités révélées par Dieu par son Église, L'espérance étant la disposition à espérer la béatitude éternelle, et la charité étant la disposition à l'amour de Dieu, de soi-même et de son prochain, pour l'amour de Dieu précisément. Et ces vertus qui sont comme les moyens que Dieu nous donne pour être en communion avec lui, eh bien elles sont parachevées par les dons de l'Esprit-Saint. Voyez, Dieu ne nous laisse pas à notre pauvreté. Il nous donne le nécessaire pour que nous puissions le connaître, vivre en communion d'amour avec lui. Et donc, pour le chrétien, la source première et directrice de sa vie morale, eh bien, ce ne sera plus les inclinations naturelles, mais l'inclination vers la vie surnaturelle avec Dieu. Nouvelle inclination qui assume les inclinations naturelles. Et la conscience va montrer à l'âme les actes à accomplir en conformité de ces trois vertus théologales et aux vertus morales qui lui sont subordonnées. Le premier motif de l'agir du chrétien, ce sera désormais l'amour de Dieu. Tout faire par amour pour Dieu, et donc conformément à sa volonté, et donc à ses commandements. Voyez, la lumière de la foi reçue de la révélation illumine le croyant et lui fait connaître avec certitude le bien qui plaît à Dieu. Et il y adhère de tout son cœur, non pas d'abord parce que c'est un bien humain perçu comme tel, même si c'est le cas, mais parce qu'il est commandé dans sa bonté par un Dieu aimé par-dessus tout. C'est pourquoi ce serait un non-sens de dire « j'aime Dieu, je le connais, mais je préfère agir comme il me plaît à moi, en dehors des commandements de Dieu, en dehors de sa volonté ». Rappelons-nous la parole de saint Jean dans sa première lettre au chapitre 5. « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » Sous l'économie de la grâce chrétienne, il y a donc un primat de la loi de l'Esprit-Saint sur la loi naturelle, et un primat des vertus théologales sur les vertus morales. Mais la loi naturelle et les vertus morales demeurent pleinement assumées. Il ne s'agit pas là non plus de dire « je marche sous la loi de l'esprit et donc je m'affranchis de la loi morale ». C'est un non-sens. Comme si l'Esprit Saint pouvait demeurer dans le cœur de quelqu'un qui s'est affranchi de la loi morale, qui vit selon ses passions et fait ce qui est objectivement un mal aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas possible. En fait, la vie dans l'Esprit Saint n'est pas là pour nous affranchir des exigences de la loi naturelle, de la morale, mais pour nous faire aller encore plus loin dans le bien. L'enjeu, ce n'est plus seulement de vivre une vie droite et juste, mais c'est la ressemblance divine. C'est de parvenir à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, comme le disait saint Paul. Alors bien sûr, c'est un chemin. On ne devient pas saint d'un coup. Cependant, même si c'est un chemin, cela ne veut pas dire qu'il nous est permis de rester dans des péchés graves, sous prétexte de progression morale. Il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais et qu'on ne peut jamais valider. Le meurtre, la fornication, le vol, etc. Aujourd'hui, il y a une tendance dans l'Église qui serait de séparer la doctrine de la pastorale, c'est-à-dire finalement la vérité de l'amour, et d'adapter ainsi la doctrine morale à la vie des gens sous prétexte de compréhension pastorale. Mais cela est absolument en contradiction avec la parole de Dieu et avec le magistère. Quand on amène la femme adultère devant Jésus, bien sûr qu'il fait œuvre de miséricorde et ne la condamne pas. Mais il lui dit très clairement, parce qu'il l'aime et qu'il veut son salut, que ce qu'elle fait est un mal objectif, un péché. Et il lui dit donc « va et ne pêche plus ». C'est un commandement de vie. Il l'invite à rompre avec le péché qui conduit à la mort. Voyez, la vraie charité, c'est le salut des âmes. C'est de dire la vérité aux âmes, de leur dire que si elles restent dans leur péché, elles risquent la mort éternelle, la perdition. Oui, je sais, ce n'est plus très à la mode de dire cela, et pourtant c'est la vérité. Aujourd'hui, on se soucie davantage de procurer une sorte de confort psychologique aux pécheurs en les laissant mariner dans leurs fautes, et on croit ainsi faire œuvre de miséricorde et de bonté. Mais la bonté sans la vérité, c'est une fausse bonté, c'est une fausse miséricorde, une miséricorde diabolique. Diabolique ? Pourquoi ? Parce que c'est le chemin de la perdition qu'on propose ainsi aux personnes. C'est l'anti-amour. Et cette dérive, eh bien, elle vient de l'oubli de la grâce de Dieu. C'est comme si on ne croyait plus que Dieu donne sa grâce, son secours, un secours divin, à qui désire de tout son cœur rompre avec le péché et se convertir au bien. L'Église, à la suite de Jésus, peut exiger cette rupture avec les actes intrinsèquement mauvais que parce qu'elle a l'assurance que Dieu donne le secours suffisant de la grâce divine. Bien sûr que cela relève d'un vrai combat, que ça peut être très difficile, mais ce n'est pas impossible avec la grâce de Dieu. Et je voudrais vous donner pour finir un bel exemple d'une vie moralement droite. Je voudrais vous évoquer cette figure du professeur Jérôme Lejeune, pour qui il était inconcevable d'avaliser cet acte intrinsèquement mauvais qu'est l'avortement. Voilà vraiment un homme qui a vécu selon sa conscience, en fidélité au précepte divin, et particulièrement ce précepte divin qui dit « tu ne tueras point ». Et cela lui a coûté cher, mais ne s'est pas dérobé à l'exigence morale qu'il percevait en lui-même. Le professeur Jérôme Lejeune est un des plus grands savants du XXe siècle et grand ami de Jean-Paul II. Il a été déclaré vénérable par le pape François le 21 janvier 2021. Jérôme Lejeune naît en 1926 dans une famille que la guerre de 39-45 laissera ruinée. À 13 ans, il découvre le médecin de campagne de Balzac, qui le marquera tellement qu'il décidera lui aussi de devenir médecin de campagne pour se dévouer aux humbles et aux pauvres. Après la guerre, il se jette avec passion dans les études de médecine. Bientôt, une motivation supplémentaire le stimule au travail. Il a fait la connaissance d'une jeune Danoise, Birte, dont il tombe amoureux et avec laquelle il envisage de se marier. Le 15 juin 1951, il soutient avec succès sa thèse de doctorat. Il est médecin et il pourrait donc s'installer comme médecin de campagne. Mais il n'a pas un sou pour s'installer et acheter un cabinet. Et c'est là que la Providence va s'en mêler. À la fac, il avait suivi les cours du professeur Turpin, qui était un généticien et qui avait commencé avant la guerre des études sur le mongolisme. Il propose au jeune professeur Jérôme Lejeune de reprendre sa consultation à Paris. À vrai dire, Jérôme Lejeune n'est pas vraiment enthousiaste devant cette proposition. Il ne se voit pas derrière des éprouvettes toute la journée. Il demande une journée de réflexion, puis finalement il accepte, se rendant vite compte que ce travail n'est pas seulement un travail de laboratoire. Il se prend d'affection pour ses petits patients malades et de compassion pour les familles. En 1954, deux chercheurs américains mettent au point un système qui permet de dérouler l'ADN et de voir et compter les chromosomes. Jérôme Lejeune s'attache à cela avec frénésie en établissant des caryotypes d'enfants mongoliens. Et un soir de 1958, il a un coup au cœur, car il découvre que ses enfants ont un chromosome en trop sur la paire 21. De là l'appellation désormais de trisomie 21 pour ses enfants. Communication est faite de cette découverte à l'Académie de médecine en mars 1959. C'est un coup de tonnerre dans le monde scientifique, une révélation. En novembre 1962, Jérôme se voit décerner le prix Kennedy. En octobre 1965, il devient titulaire de la première chaire de génétique fondamentale à Paris. Il est mondialement connu et reconnu. Les honneurs pleuvent. Les familles des petits malades, attirées par la renommée internationale du professeur et de son conseil, s'adressent de plus en plus nombreuses à lui. Il aide les parents à comprendre et à accepter cette épreuve dans une vision chrétienne. Ces enfants trisomiques, créés à l'image de Dieu, sont promis à un avenir éternel où rien ne demeurera de leurs infirmités. Il les assure que leur enfant, malgré un grave handicap intellectuel, débordera d'amour et de tendresse. En 1967, le professeur est convié à la 7e Assemblée mondiale de l'Association médicale israélienne. Il s'y rend heureux de pouvoir aller sur la terre du Christ. Alterne alors travaux et excursions touristiques. Un jour, il entre seul dans une petite chapelle à Tibériade. Et là, il va se produire quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Il reçoit une grâce profonde d'intimité avec Dieu. « Je m'allongeai de tout mon long pour baiser la trace imaginaire des pas de celui qui était là. » Et là, saisi d'un sentiment inconnu, il dira « ce fut comme un fils retrouvant un père très aimé, un père enfin connu, un maître révéré, un cœur très sacré découvert. Il y avait de tout cela et beaucoup plus. Il redescend transformé. Le monde, les honneurs, la réussite, la crainte du jugement de l'autre ayant fondu dans ce brasier. Il n'y a plus que le Seigneur et la nécessité de répondre à sa bonté prévenante. Il ne comprend pas pourquoi il a bénéficié d'une telle grâce, mais il ne tardera pas à le savoir. Un incident va le mettre sur la voie. En arrivant à Cana, le guide de l'excursion demande si quelqu'un sait la raison de la renommée internationale de Cana. Jérôme prend alors le micro et naïvement raconte l'épisode des noces de Cana. Silence. Puis le guide dit « Vous n'y êtes pas du tout. Ce qui fait l'importance de Cana, c'est la présence des laboratoires cosmétiques Elena Rubinstein. » Éclat de rire général. Jérôme se tait. Il se sent impuissant à venger l'outrage que le Christ vient de recevoir sous ses yeux. Voilà maintenant Nazareth. En sortant du car, tout le monde se dirige vers la basilique de l'Annonciation avec des mauvaises plaisanteries sur la virginité de Marie, cherchant à provoquer Jérôme le jeune. Que faire? Il entre et lentement se signe, puis s'agenouille par révérence envers le mystère de l'incarnation accompli en ce lieu. Curieusement, son attitude humble et courageuse fait taire les ricaneurs. Après cette confession de foi publique, personne ne provoquera plus le professeur Lejeune, mais on le met à l'écart du groupe. En août 1969, la Société américaine de génétique décerne à Jérôme l'Award, la plus haute distinction qui puisse être accordée à un généticien, prélude au prix Nobel de médecine dont on sait déjà qu'il est plus que pressenti. Et en arrivant là-bas pour recevoir son prix, il a un choc. Il se rend compte qu'on le récompense non pas tant parce qu'il a découvert la trisomie 21, mais parce qu'en permettant d'identifier la trisomie 21 et d'autres maladies, il a rendu possible le dépistage prénatal. Certains se sont en effet emparés de ces découvertes à lui pour pouvoir diagnostiquer ces maladies dès le ventre maternel pour supprimer les enfants. Autrement dit, faute de pouvoir guérir les maladies, on va pouvoir éliminer les malades. Et le but de tout cela, c'est d'autoriser l'avortement des trisomiques. Le professeur Lejeune est abasourdi. C'est l'univers qui s'écroule pour lui. Il a le temps de se dire « Que vais-je faire demain ? Prendre mon prix, remercier et m'en aller ?» Alors il comprend ce qui s'est passé à Tibériade. Et il comprend ce qu'il doit faire. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, a dit Jésus. » Et le lendemain, il va dire les mots qu'on ne lui pardonnera jamais. Les mots qui vont faire de cet homme au sommet de sa gloire le dernier des parias. Il va leur parler un langage non pas religieux, ni même d'abord moral, mais un langage de scientifique. La nature corporelle des hommes, explique-t-il, est tout entière contenue dans le message chromosomique dès le premier instant de la conception. Ce message fait du nouvel être un homme, non un singe ni un ours. Rien ne sera plus jamais ajouté, tout est déjà là. Et donc cet être que vous prétendez avoir le droit de détruire, ce n'est ni un singe ni un ours, c'est un être humain. La tentation de supprimer par l'avortement les petits d'hommes malades va à l'encontre de la loi morale, dont la génétique confirme le bien fondé. Et cette morale n'est pas une loi arbitraire. Le professeur Jérôme Lejeune termine son discours. Il descend de la tribune. Pas un applaudissement, mais un silence hostile. Et on s'écarte de lui. Le soir, il écrit à sa femme « Aujourd'hui, j'ai perdu mon Nobel de médecine. Mais vois-tu, entre ce prix et la vie de ses enfants, est-ce que tu crois que j'avais le droit de choisir ?» Il comprend qu'il est engagé dans une lutte qui n'est pas à dimension humaine, mais contre les puissances des ténèbres. et avec ses pauvres armes dérisoires, il n'est pas assuré qu'il gagne cette bataille. Mais il sait maintenant que toute sa vie sera engagée dans cette lutte et qu'il risque de perdre non seulement son Nobel, mais qu'il risque aussi de ruiner sa carrière. Après cela, il va rentrer en France et c'est l'ostracisme qui commence. Les étudiants qui ne s'inscrivent plus à ses cours, les amis qui l'oublient, les collègues qui s'écartent de lui. En rentrant en France, il croyait qu'il lui faudrait simplement lutter contre le fait qu'on veut supprimer les enfants malades. Mais il s'aperçoit vite que ça prend une dimension plus vaste et que ce sont tous les enfants qui sont menacés d'avortement, ceux qui sont en trop, qui gênent. La campagne en faveur de la suppression des trisomiques n'étant qu'un moyen d'introduire le droit à l'avortement. Et il va s'élever de toutes ses forces et de toute sa notoriété, car il en a encore, contre cela. Il va être beaucoup contré. On va chercher de toutes les manières à le discréditer et à le faire taire. Mais il ne se taira pas. Le 18 mars 1973, un colloque a lieu à l'abbaye de Royaumont sur le sujet de l'avortement, où le professeur Lejeune est présent et prend des notes de ce qui est dit. Or, il se produit quelque chose de tout à fait étrange. Une femme se lève. Son nom ne figurait nulle part dans les annonces du colloque, comme si elle n'avait jamais existé. Et avec un fort accent des pays de l'Est, elle intervient au micro à la tribune et dit ceci. « Voyez-vous, nous avons décidé de détruire la civilisation chrétienne. Alors dans le passé, nous avons attaqué l'Église. Mais l'Église est forte. Nous savons qu'il ne faut plus l'attaquer de face. Alors nous avons décidé de l'attaquer dans son maillon faible. Quel est le maillon faible de la civilisation chrétienne? C'est la famille. Et quel est l'élément le plus faible de la famille? C'est l'enfant à naître. Détruisez l'enfant à naître. Vous détruirez la famille. Détruisez la famille. Vous détruirez la civilisation chrétienne et l'Église. Nous sommes pour l'avortement. » Étrangement, cette déclaration n'a laissé nulle part aucune trace. Cependant, à partir de ce moment-là, Jérôme Lejeune sait que tout ce qu'il fera est absolument inutile, qu'il se bat contre des forces qui le dépassent. Et alors il se souvient d'une devise latine qui était la devise des légionnaires romains, devise qui se traduit ainsi « Et s'il vient à tomber, c'est à genoux qu'il combat ». Il se dit que c'est bien inconfortable de combattre à genoux, mais il comprend en même temps que si c'est bien inconfortable, c'est aussi à genoux qu'on est plus près de Dieu. Alors il se dit « Avec mes armes à moi, je ne puis rien. Mais avec les armes de Dieu, ce combat vaut d'être mené quand même. » Et il va le mener. Il va le mener pour rien à vue humaine, puisque la loi légalisant l'avortement passera quelques mois après, et ceci dans un déchaînement de violence contre lui. Il reçoit une multitude de lettres d'insultes. Il répondra à toutes avec une grande charité, beaucoup de respect et de miséricorde. Avant que la loi passe, le gouvernement de Giscard d'Estaing lui demande de se taire. « Taisez-vous 3 mois, c'est-à-dire le temps que la loi passe. N'allez plus sur les chaînes de télévision, n'allez plus à la radio, n'écrivez plus. Nous ne vous demandons pas d'abjurer vos idées religieuses. Nous vous demandons seulement de vous taire 3 mois et nous saurons vous récompenser. » Bref, on tente d'acheter sa conscience. Il refusera tout et continuera de parler, non seulement en France, mais à l'étranger où il est très demandé pour lutter contre toutes les légalisations pour l'avortement. Tous les combats seront perdus, mais il n'abandonne pas. Si c'est à genoux qu'il faut combattre, c'est à genoux qu'il combattra. On lui supprime alors tous ses crédits de recherche et il est contraint de fermer son laboratoire. Indigné par ce procédé, les laboratoires américains et anglais lui octroient sans contrepartie des crédits privés. Et c'est uniquement grâce à cette solidarité désintéressée qu'il va pouvoir reconstituer une équipe de recherche animée des mêmes motivations que lui. On lui mettra sur le dos redressements fiscaux sur redressements fiscaux pour rien, en plus de menaces et vexations multiples. Bref, de multiples tracasseries administratives pour lui faire payer ses prises de parole. Il est aussi particulièrement affligé de constater le silence assourdissant de l'Église à ce moment-là concernant cette question de l'avortement. Il ne comprend pas cet effroyable silence de cette Église qui ne défend pas les plus faibles. Il demande à voir le cardinal Marty à Paris, qui ne le reçoit pas, mais le renvoie à son coadjuteur. Celui-ci le recevra sur le pas de la porte, refusant de le faire entrer et lui disant « Je ne vous fais pas entrer, monsieur le jeune. Je vous le dis publiquement. Vous êtes un mauvais chrétien et la honte de la France. » L'esprit de la franc-maçonnerie avait sans doute débordé jusque dans l'église. Jérôme le Jeune est rentré chez lui ce jour-là, il est tombé dans un fauteuil et pour la première fois de sa vie, son épouse l'a vu pleurer. Il ne pleurait pas sur lui, mais sur cet homme qui lui avait fait une telle réponse, sur l'église défigurée par ses serviteurs. Heureusement, il se trouve qu'à Rome, on n'avait pas du tout le même avis et que le professeur était éminemment estimé. Le 5 août 1993, le Saint-Père Jean-Paul II décide la création d'une académie pontificale de médecine consacrée à la défense de la vie et il nomme le professeur Jérôme Lejeune président. Entre le pape et le professeur, il y a en effet une véritable convergence. L'avortement est à leurs yeux la principale menace contre la paix. Si les médecins commencent à tuer, pourquoi les gouvernants s'en priveraient-ils? Cette nomination laisse Jérôme le Jeune abasourdi. Il s'accorde quelques jours pour réfléchir car il se trouve très fatigué. À cause de cette fatigue, il finit par consulter son ami le professeur Lucien Israël qui lui montre le visage décomposé, les radios de ses poumons, cancer déjà bien avancé. Jérôme accepte la réalité avec courage et soumission à la volonté de Dieu. Il faut annoncer la nouvelle à son épouse et ses enfants. « Vous ne devez pas vous inquiéter jusqu'à Pâques, je vivrai au moins jusque-là. » Et soudain il ajoute « Et à Pâques, il ne peut rien arriver que de merveilleux. » La chimio commence très pénible pour lui. Cependant il continue de recevoir les appels téléphoniques de toutes les familles des enfants malades. Il réconforte et jusqu'au bout, sans rien dire de son état de santé, il répondra au téléphone, soulageant tout autant qu'il pouvait. Il avertit le Saint-Père qu'il décline l'invitation à être président de l'Académie. Mais le Saint-Père refuse de nommer un autre président. Alors le professeur sourit et dit « Je mourrai en service commandé ». Jusqu'à la fin, il s'efforce de rédiger les statuts de l'Académie. Il sent son impuissance, mais son esprit de foi lui montre la fécondité des échecs eux-mêmes. Jamais il ne se plaint. Ces douleurs unies par amour à la passion du Christ peuvent remettre le monde sur son axe véritable. Et il offre surtout sa plus grande tristesse, celle de n'avoir pas trouvé le remède à la trisomie qui aurait permis de sauver ses petits patients plutôt que de les voir avorter. Il faut savoir aussi que quand il a été hospitalisé, on ne lui a pas fait de cadeau. On lui a fait payer très cher son choix pro-vie. Comme par hasard, toutes les piqûres étaient ratées. Et on a même oublié de le réhydrater et de le nourrir pendant une semaine. Quand une de ses proches s'en est aperçue, elle l'a fait immédiatement passer ailleurs en soins palliatifs. Mais quelqu'un lui a dit après « Madame, on n'oublie pas de réhydrater et de nourrir quelqu'un pendant une semaine. On a tout simplement voulu le tuer. » Le professeur ne s'est jamais plaint de tout cela. Alors qu'il était médecin lui-même et qu'il savait comment on traite un patient avec humanité. C'est ce qu'il avait fait toute sa vie. Le vendredi saint, il confie au prêtre qui lui donne les derniers sacrements. « Je n'ai jamais trahi ma foi. » À ses enfants qui lui demandent ce qu'il veut léguer à ses petits malades, il répond « Je n'ai pas grand-chose, vous savez. Alors je leur ai donné ma vie. Et ma vie, c'est tout ce que j'avais. » Puis, ému jusqu'aux larmes, il murmure « Oh mon Dieu, c'est moi qui devais les guérir, et je m'en vais sans avoir trouvé. Que vont-ils devenir ?» Puis, rayonnant, il s'adresse aux siens. « Mes enfants, si je peux vous laisser un message, c'est le plus important de tous. Nous sommes dans la main de Dieu. » Le lendemain, samedi saint, Jérôme est serein. Pourtant, en fin de journée, la gêne respiratoire le reprend. Il commande soudain à sa femme et aux siens de rentrer à la maison. Il ne veut pas qu'ils assistent à l'agonie. Et le dimanche matin, vers 7 heures, il rend l'esprit. 33 jours après sa nomination comme président de l'Académie pontificale pour la vie. Et dehors, les premières cloches sonnent. C'est le jour de Pâques, jour de la résurrection, jour de la vie qui ne finit pas. Le maître de la vie a rappelé à lui ce grand serviteur de la vie et l'a fait passer dans sa vie éternelle. Puissions-nous recevoir par son intercession la grâce de ne jamais trahir notre foi et de vivre toujours selon la rectitude de notre conscience, quoi qu'il nous en coûte.